Vous écoutez Radio Campus 106,6 FM, www.campuslille.com, et voici la reprise du magazine que vous attendiez tant, bien sûr, Campus Lille Info, un magazine dédié à l'information de cette université Lille 1, qui s'appelle Université Sciences et Technologies de Lille, voilà, et qui donc vous propose chaque année à la rentrée notamment des événements et s'inscrit aussi dans le fil d'événements nationaux. C'est le cas aujourd'hui des Journées du Patrimoine, de la Journée du Patrimoine, et aujourd'hui on va aborder bien sûr la question du patrimoine de cette université et du CNRS qui ne sera pas oublié. Voilà, nos invités pour nous parler de cela, ils vont se présenter. Bonjour.
Bonjour, Jessie Cuvelier. En fait, je suis ingénieure d'études au CNRS et gestionnaire de la collection de paléontologie de l'université.
Très bien.
Bonjour, Sophie Braun, chargée du patrimoine scientifique de l'université.
Bonjour. Bonjour, Jacopo Visioli, maître de conférence à Lille 1 et directeur de l'UFR de biologie.
Très bien. Donc, la journée européenne du patrimoine, bon, je suppose qu'en France c'est la même date, peut-être que dans d'autres pays c'est pas exactement la même chose, mais là on va bien parler de cette journée du 17 septembre, c'est donc un samedi, et avec un thème national qui est patrimoine et citoyenneté. Voilà, donc tout d'abord on va rappeler un petit peu en quoi l'UFR de biologie de l'Université de Lille, sciences et technologies, est, on va dire, porteur, on va dire conservateur aussi peut-être, de choses passionnantes qui vont nous être, sinon révélées, du moins présentées au cours de cette journée.
Tout à fait. L'UFR de biologie possède des collections assez anciennes de patrimoine scientifique avec un grand valeur historique et scientifique. Ce sont des collections énormes. On n'a pas encore vraiment estimé la taille de la collection, mais on parle de 6-7 000 échantillons qui vont de la biologie animale à la biologie végétale, à l'embryologie, des ouvrages anciens. Et cette vaste collection, on a envie de la valoriser, la montrer, l'exposer. Et ces journées du patrimoine sont la bonne occasion justement pour valoriser ces petits trésors cachés qui ne sont pas accessibles au public.
Alors, cette collection, elle remonte à quelle période ?
Les échantillons les plus anciens datent de la fin du 19e siècle. Donc, on a des catalogues avec des dates autour de 1888, mais il y a encore des échantillons qui on suppose être plus anciens.
Donc, on parle d'échantillons, est-ce qu'on parle aussi de matériel, voire de photographies ou de choses ?
Non, il s'agit plutôt d'animaux naturalisés, des bocaux, de modèles en cire ou un plâtre, donc c'est plutôt ce type d'échantillon qu'on a dans nos collections. Mmh. Donc, et des livres, forcément.
Et des livres, voilà. Est-ce que ces collections sont stabilisées, c'est-à-dire qu'elles peuvent durer de façon indéterminée ?
Non, et d'où le but d'un projet qu'on va développer, dont on parlera probablement plus tard, c'est un projet de numérisation, justement, de prendre en photo ces échantillons pour les préserver et pérenniser ces collections, parce que c'est évident que la plupart des échantillons sont anciens, fragiles. Je vous donne un exemple, les animaux naturalisés perdent des morceaux, des oiseaux qui perdent des plumes. Donc pour l'instant, ils sont préservés parce qu'ils sont des pièces climatisées et pas accessibles au public. Mais ça craint un peu la conservation, est vraiment un gros souci qu'on a pour ces collections.
Donc on ne va pas déborder sur une future émission, mais néanmoins je m'interroge sur le fait de prendre des photos. Est-ce que ça dégrade ces échantillons bien,
il y a Non, absolument. C'est un système pas invasif. On expose les échantillons le temps de prendre une photo, donc quelques minutes, et après on peut les ranger sans problème.
D'accord. Alors ces collections, elles sont rangées quelque part, elles sont stockées, elles sont référencées ?
Sont stockés dans nos bâtiments d'enseignement, dans des pièces. Et je vous disais tout à l'heure, on a commencé à faire un inventaire, mais il y en a tellement que c'est très compliqué, c'est difficile de reconstruire l'historique de ces collections. Heureusement qu'il y a plusieurs personnes qui s'investissent dans ce travail, notamment des enseignants-chercheurs, des collègues partis à la retraite. Et à l'UFR de biologie, on a monté une vraie équipe patrimoine qui, depuis maintenant 4 ou 5 années, s'investit dans ce processus d'inventaire, restauration et valorisation des spécimens.
Alors quand il y a un inventaire des choses qui existent, il y a aussi des choses qui arrivent en plus et il faut les rajouter à cet inventaire ou pas ?
Non, on n'a pas beaucoup d'arrivées d'échantillons, sincèrement, c'est ponctuel. C'est plutôt d'essayer de comprendre ce qu'il y a parfois dans des bocaux. mm-hmm. avec des échantillons un peu asséchés, vides, abîmés. Donc c'est là la difficulté de reconstruire l'histoire de certains animaux.
Est-ce qu'il y a des échantillons qui pourraient rendre des laboratoires, voire des universités jaloux ?
Si, si, on a des petites perles, on a des pièces anciennes. Juste un petit exemple, on a la collection complète des rapports d'expédition océanographiques d'Albert de Monaco, qui date du début du XXe siècle, et on a la collection complète qui existe seulement à Monaco.
D'accord.
Donc on a vraiment des choses particulières.
Sophie Braun, j'imagine que vous êtes ravie d'être chargée de présenter ce patrimoine, de gérer un peu ce qui s'y fait.
Eh bien, tout à fait, puisque effectivement c'est une très grande richesse que je découvre encore petit à petit. Depuis mon arrivée en 2012, à chaque visite chez les gestionnaires de collection, chez les collègues passionnés, je découvre des choses que vous pourrez découvrir à l'occasion des Journées du patrimoine. À chaque fois, c'est des informations supplémentaires, des nouveaux échantillons découverts, des nouveaux instruments retrouvés dans des salles ici et là dispersées sur le campus et pas encore en réserve. Des fois, des objets pas encore connus à identifier. Donc oui, c'est vraiment passionnant.
Donc on va demander à Jessie Cuvelier, donc, qui s'occupe de paléontologie, qui est peut-être, on va dire, l'homologue de Jacopo Visoli.
Oui, à peu près, sauf que on part sur des durées beaucoup plus longues. Ça veut dire qu'on va en fait parler d'échantillons qui ont plusieurs millions d'années, voire des centaines de millions d'années, puisque j'ai des échantillons qui datent de 350 millions d'années, voire 500 millions d'années.
Ces échantillons viennent d'où ? Pas forcément de France, j'imagine ?
Non, c'est des échantillons qui viennent d'un peu partout, une bonne partie de France, certains des pays tels que l'Afghanistan, la Turquie, la Libye, des endroits où les chercheurs sont partir, collecter et échantillonner dans le cadre de leurs études.
Est-ce qu'on peut dire qu'en France, on fait, dans la paléontologie, des études avec une dominante dans un thème, par exemple, et que ces échantillons entrent en concordance avec certaines dominantes ?
Oui, dans le cadre de l'Université de Lille, la dominante, en fait, c'est surtout la période du paléozoïque, c'est-à-dire l'ère primaire qui va de 540 millions d'années à... je crois 250. Et la dominante, on étudie donc au laboratoire beaucoup d'échantillons microscopiques avec des radiolaires, des foraminifères.
Est-ce que certains de ces échantillons sont encore vivants ?
Non, tous sont fossiles. Mais la collection est encore vivante, car contrairement à la biologie, c'est une collection d'études et de recherches qui est régulièrement enrichie par les nouvelles découvertes des chercheurs.
Mmh. On découvre encore beaucoup de choses ?
Oui, toujours. Et même sur les anciens échantillons, on en redécouvre encore en faisant des nouvelles analyses, des analyses soit chimiques, d'autres types d'analyses.
Est-ce que plus on remonte dans le temps et plus c'est compliqué de l'étudier ?
Oui, tout à fait, puisqu'il y a, il y a moins de fossiles, mais il y a différentes techniques et il y a différents organismes que l'on étudie en fonction des âges.
Est-ce que la région, on va dire Hauts-de-France maintenant, est riche en éléments de cette époque ?
Alors ici, on est riche en éléments, en fait, en fossiles, en plantes fossiles. Et l'Université de Lille a une collection exceptionnelle, même patrimoniale, qui reflète l'activité des compagnies minières dans le Nord-Pas-de-Calais. Ce qui est très rare, puisqu'on doit être la deuxième collection en France en paléobotanique, derrière le muséum, puisqu'on a plus de 50 000 objets.
Je suppose que tous les mineurs ou descendants de mineurs ont dans leur famille des fossiles conservés. Est-ce que vous entrez en contact avec eux ? Est-ce que vous êtes en demande ?
Disons que les fossiles que l'on a ont comme particularité d'avoir été souvent récoltés directement dans la mine au fond. Il y a beaucoup de mineurs qui nous contactent, mais c'est pour des fossiles qu'ils ont récupérés sur les terris. Donc au contraire des fossiles que l'on a qui sont bien, situés dans l'espace.
D'accord. Bon, pour le dire, chaque strate est identifiée en termes de période.
Oui, chaque strate est identifiée en termes d'association de plantes fossiles. D'accord. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer et de montrer lors de ces journée du patrimoine. Et chose aussi exceptionnelle, c'est qu'on va présenter des collections de micro-paléontologie, c'est-à-dire que les fossiles ne se résument pas aux gros objets, mais également à des objets de petite taille, inférieure, donc invisible à l'œil nu, et on va en fait disposer d'une loupe binoculaire pour pouvoir les montrer au grand public lors de ces journées.
Alors, les gros objets sont a priori plus impressionnants. Qu'est-ce qu'on peut mettre en valeur à partir des petits?
Alors, les petits, au contraire, sont beaucoup plus intéressants parce qu'on les a en entier. Les gros, comme les plantes, nous n'avons que des morceaux et on doit en avoir plusieurs pour les reconstituer. Cependant, pour les foraminifères, ils sont plus petits, on en a beaucoup plus, puisque dans une carotte, on obtient plus, des fois des milliers de spécimens par centimètre.
Mmh. Voilà, donc là, on a une idée de vos recherches, de vos collections, et ce qui va être présenté lors de cette journée européenne du patrimoine, le samedi 17 décembre, d'abord, qui a pour thème patrimoine et citoyenneté. On peut déjà dire où on va pouvoir découvrir ces collections et de quelle heure on pourra les visiter.
Voilà, pour l'UFR de biologie, il y aura des groupes le matin et l'après-midi, deux groupes le matin, deux groupes le matin à partir de 9h15. Et il sera une visite guidée dans trois lieux. L'accueil sera dans la salle qu'on appelle la salle Pasteur, où on présentera déjà quelques échantillons, mais surtout on expliquera l'intérêt historique de ces collections. Ensuite, il y aura la visite des collections de biologie animale dans un autre bâtiment du département de biologie. On passera ensuite à la biologie végétale pour finir avec la visite de l'atelier de numérisation qui a été récemment mis en place, toujours dans le cadre des bâtiments de la biologie.
Voilà, donc pour le public, hein, puisque c'est ouvert à tout public, j'imagine.
Sous réservation.
Et c'est gratuit?
Oui, absolument. C'est d'accord. Le principe des journées des patrimoines.
D'accord. Donc, il y a un lieu d'accueil qui est à la salle Pasteur, qui est au bâtiment SN3.
SN3,
qui est juste, on va dire, derrière la station de métro, qui donne vers
l'Iliage,
dans ce coin-là. Donc, ne vous éloignez pas trop de la station Cité Scientifique, sinon vous êtes perdu au départ, sauf pour venir dire bonjour à Radio Campus. Voilà, donc, on l'a dit, 9h midi pour... maximum 10 personnes.
Oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, les collections sont dans des petites pièces, donc il y a un problème de place.
Voilà, il y aura deux groupes de 10 personnes, donc vous serez peut-être les heureux élus, chers auditeurs, en téléphonant pour réserver au 0320 43, je pense que ça c'est l'université, le numéro, 0320 43 55 75. Donc c'est aussi l'office de tourisme de Villeneuve-d'Ascq. Hein. Mais ça ressemble un peu le 43, hein. C'est un peu ça hein, l'idée.
Oui, on a un partenariat avec l'Office de tourisme qui, pour ces journées, prend nos réservations.
Oui, c'est ça. Voilà, donc super. Visite guidée 1 heure, donc réservation pour des groupes. Alors, les groupes sont à 10h et 11h. Et l'après-midi, il y a 3 groupes, 14h, 15h, 16h. Je rappelle le numéro de téléphone qui vous donne accès aux oreilles des personnes qui vont être chargées de vous guider à l'Office du tourisme, le 0320 43 55 75. Donc, ces visites guidées, elles ont, on va dire, une certaine forme d'organisation. Et je propose dès maintenant à Sophie Braun de nous donner le complément de tout ce qui manquerait dans ces informations.
Oui, donc en fait, il va y avoir différentes visites proposées. Donc pour chaque type de visite, il va falloir penser à vous inscrire. Donc comme vous l'avez compris, en biologie, des visites de 2 heures à réserver à l'Office de tourisme. En paléontologie, des visites d'une heure également à l'Office de tourisme. À l'espace culture, nous présentons l'exposition « La voiture électrique » qui en fait retrace toute l'aventure de l'histoire de l'automobile électrique depuis le 19e siècle à nos jours avec la présentation d'un véhicule électrique contemporain de 2013 qui vient du laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de l'université. Donc avec beaucoup de belles choses à découvrir et tous les rebondissements de cette histoire et pourquoi aujourd'hui elle revient en force, pourquoi il y a 100 ans elle a disparu de la circulation, etc.
J'espère qu'on aura le plaisir un jour de faire une émission spécifique sur le véhicule électrique.
Hein. Ah bah j'espère aussi puisque bon là le but c'est effectivement de commenter ces visites mais on espère la reconduire plus tard et l'enrichir. Et d'un autre côté, en dehors du campus, vous pouvez aussi visiter l'Observatoire de Lille avec l'association Jonker qui propose de montrer la lunette astronomique qui est située sous la coupole, les instruments scientifiques anciens de météorologie, d'astronomie et aussi de sismographie puisqu'il y a un sismographe au sous-sol de l'Observatoire. Et là, ce sera par contre des réservations à l'Office de tourisme de Lille avec des visites le samedi et le dimanche. Et également la possibilité de découvrir dans l'ancien institut de géologie à l'AMRES les fresques géologiques qui vous seront présentées par la Société géologique du Nord.
Donc l'observatoire, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un lieu assez étonnant, hein, avec une architecture très particulière, hein, d'observatoire mais ancien.
Hein, oui, voilà.
Et qu'on peut retrouver donc dans un endroit qui est près du jardin du jardin botanique.
Hein. Voilà.
Voilà. Donc c'est à la fois aussi un bel espace de promenade pour ceux qui veulent, s'il fait beau, aller
un peu voilà, plus loin. Oui, voilà, et c'est également aussi très prisé, avec un nombre limité de personnes, donc il faut vraiment penser à s'inscrire pour toutes les visites.
Très bien. Donc on a parlé tout à l'heure déjà des échantillons, mais on a aussi des objets scientifiques, des instruments scientifiques. Qui veut nous parler des instruments scientifiques ?
Oui, donc l'université, elle mène une politique d'inventaire des instruments scientifiques anciens et contemporains avec le Musée des Arts et Métiers de Paris dans le cadre d'une mission nationale de sauvegarde de ce patrimoine. Bon, cette année, malheureusement, les réserves du campus ne seront pas ouvertes au public. Ils pourront voir quelques échantillons, surtout là liés du coup à la voiture électrique dans l'exposition, et à l'observatoire, il y aura des instruments. Il y a également deux sites internet qui permettent d'en savoir un petit peu plus sur ces collections. Le site de l'ASA, l'Association de solidarité des anciens, qui s'appelle FIMUS. Et bien
qui
sûr, FIMUS.
Ça s'écrit.
P-H-Y-M-U-S-E. Et également le site national qui reprend toutes les collections des partenaires régionaux faisant partie de la mission nationale PATSTEC, donc PATSTEC.
Très bien. Donc il faut rappeler que régulièrement dans l'année, on peut avoir une, voire plusieurs expositions, notamment à l'espace culture consacré à ces objets scientifiques.
Voilà, donc quand c'est possible, j'organise une exposition de rentrée en lien avec les journées du patrimoine. Et cette année, j'ai eu la chance d'avoir avec moi Thierry Surin pour m'assister dans la réalisation de ce projet d'exposition. Et la prochaine exposition du patrimoine qui rentre vraiment dans le cycle de l'espace culture, c'est la Faculté des sciences de Lille pendant la Première Guerre mondiale, qui sera visible à partir du mois de janvier. Donc une histoire aussi très intéressante et originale, puisque l'Université de Lille était la seule occupée pendant cette période de guerre.
D'accord. Est-ce qu'il y aura, en plus de ce que vous exposez, des conférences sur ce sujet ?
Nous allons essayer d'en mettre en place, mais pour l'instant, le programme n'est pas encore fixé.
Très bien. Donc on rappelle la période ?
Donc la période d'exposition, ce sera du 4 ou 5 janvier jusqu'à à peu près mi ou fin février 2017.
Très bien. Donc on va dire que l'université et le CNRS, qui est souvent associé, hein, puisque les recherches sont...
Oui, ils sont communes, en étroite association, oui.
Et riche de tous ces matériaux, matériels, et aussi de ces espaces. Donc cette année, on aura l'occasion aussi d'inaugurer, je pense, un espace qui s'appelle l'Iliade,
oui,
qui offrira certainement d'autres possibilités.
Oui, d'ailleurs, là sont en cours des vitrines. Donc il va y avoir la présentation d'objets, bon, très peu d'objets, mais représentatifs de chaque collection que l'on a sur le campus et qui, courant de la semaine, seront totalement mises en place dans l'espace Iliade.
Voilà, un beau programme, belle rentrée pour vous tous.
Merci.
Un dernier mot, donc, allez.
Un dernier mot pour ce projet numérisation qui, justement, a comme but de mettre en valeur ce patrimoine de l'université qui a investi dans un système de numérisation et presque uniquement, il y en a chez nous, à l'Université de Lille et à l'Université de Dubaï. Il s'agit d'un système avec un bras mécanique avec 5 appareils photo qui prend les images d'un objet tournant et reconstruit l'image en 3D. Et pour l'instant, la biologie est pilote dans ce nouveau projet On souhaite numériser nos milliers d'échantillons, mais derrière, il y aura la numérisation des collections de physique, forcément les 54 000 échantillons de paléobotanique. Donc, c'est un projet ambitieux, unique en France pour l'instant. Donc, si vous voulez avoir un aperçu des premiers échantillons, il y a un site qui s'appelle photo3d.univ-lille1.fr.
Merveilleux.
Et cet atelier de numérisation sera ouvert pour les journées du patrimoine.
D'accord. Peut-être qu'on pourrait y mettre des vidéos pour voir comment vous faites un jour.
Pourquoi pas, oui. Alors, c'est une bonne idée. Oui. Tout à fait.
Je pense que ça peut rendre les gens curieux aussi de voir la science, comment elle se fait au-delà des personnes qui cherchent. Il y a aussi ceux qui travaillent autour pour favoriser ce travail.
Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'aspect pédagogique. Parce que un des buts est de préserver ces échantillons, les prendre en photo et les rendre disponibles pour les étudiants pour une manipulation virtuelle, pour créer des musées virtuels. Et tous ces projets réalisés en collaboration avec le SEM, le service multimédia de l'université, qui a mis du personnel extrêmement qualifié pour ce travail. Et je répète, c'est un projet ambitieux. Et c'est l'occasion de remercier l'université qui a mis l'argent, les finances et les moyens humains pour développer ces projets sur les patrimoines globaux de l'université.
Voilà, une rentrée qui se présente donc bien à Lille 1 et au CNRS avec cette journée du patrimoine qui aura lieu, je vous le rappelle, samedi 17, donc c'est pas cette semaine, hein, c'est la semaine d'après, avec ce thème patrimoine et citoyenneté, la journée européenne, et ce téléphone que je vous rappelle pour les visites, n'hésitez pas à vous renseigner assez vite, parce que, on l'a dit, ce sont des petits groupes de 10, hein, et donc au 03 20 43 55 75, vous pourrez réserver s'il reste de la place. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute de Radio Campus, une excellente rentrée, et puis à tous ceux qui ont participé à cette émission aussi, un dernier point.
Je veux juste corriger, en fait, dans le cadre de la paléontologie, ce sont des groupes de 20.
De 20, bon,
voilà,
ça
donc,
va.
Et on va, en ce qui concerne la pédagogie, je vais sortir exceptionnellement, en fait, des moulages de foraminifères qui ont été créé par d'Orbigny il y a 200 ans, dans le cadre en fait de pédagogie qui avait été distribuée au Muséum d'Histoire Naturelle. Donc dans ce cadre-là, c'est exceptionnel. Ils ne sont jamais présentés au grand public.
Ils sont dans les réserves du Musée d'Histoire Naturelle.
Voilà, ils ont été prêtés exceptionnellement dans le cadre en fait de ces journées du patrimoine.
Alors, on a encore 2 minutes. Si je réfléchis bien, il y a une partie des collections du Musée des Beaux-Arts qui est à l'île 3, préservée sur l'Égypte, des choses comme ça. Et vous avez la correspondance avec le Musée d'Histoire Naturelle, vous gardez des choses.
C'est normal, puisqu'en fait, c'est le Musée d'Histoire Naturelle et la Faculté des Sciences ont une histoire commune de 1860 à 1960, oui, lors du déménagement ici. Et l'ensemble, en fait, musée Houillet, qui correspond aux collections de paléobotanique, et le musée d'histoire naturelle se trouvaient tous les deux dans l'Institut des sciences naturelles.
Voilà, on pourrait peut-être rappeler le nom de quelques personnes célèbres.
Charles Barrois, dont on connaît
le restaurant.
Voilà, et Jules Gosselet.
Voilà.
Charles Barrois étant le fondateur du musée Houillet qui va générer l'ensemble de cette collection.
Voilà. Et la rue Gosselet est à proximité du musée et de l'ancienne université.
Sans oublier Louis Pasteur, qui était doyen de la faculté des sciences
quand
de
même,
Lille.
On ne peut pas l'oublier non plus.
Et c'est ici qu'il a commencé ses études de biochimie. C'est ici qu'il est devenu biologiste, parce qu'il avait une formation de chimiste. Donc ses premières études sur la fermentation ont été faites à Lille.
Voilà, donc pour tous les nouveaux étudiants de Lille, mais vous connaissez déjà un peu mieux dans quel espace vous allez entrer. Merci, très bonne journée et bonne rentrée.